Alors, vous êtes ici au début de Chakika. On commence la Gemara. Akol ha'atu yamai. La Mishnah nous a dit Akol chayavim beria. Vous avez Chakika d'Av Bet Amud Alef. Akol chayavim beria. Tout le monde est obligé de faire les korbanot de ria. Akol ha'atu yamai. Qu'est-ce que ça va inclure? Akol, c'est-à-dire qu'il y a une certaine catégorie que j'aurais pu croire pour une certaine raison justifiée. Qu'il n'est pas obligé. Comme à ce moment-là, qu'il est obligé. Mais ça veut dire quoi? Mais quelle est la catégorie que j'aurais pu croire qu'il n'est pas tour? Normalement, les hommes sont tous chayavim be mitzvot. Alors, quel est le chidouche? La kol etu yamai, la tu yami she chetsi evet ve chetsi ben chorin. Un homme qui est matye evet, matye ben chorin, c'est comme? Bon, comment c'est possible le cas? C'est un juif qui a été, deux juifs, ils ont fait une association, une SCI. Ils ont acheté un serviteur. Ils ont acheté un esclave goy. Alors, il travaillait pour ces deux juifs. Et après, un juif qui dit, moi, je te donne la liberté. Il a écrit un papier comme une espèce de guette. Il a dit, je te libère. Alors, maintenant, sa partie est libérée. Donc, ce Evet, il est à moitié libéré. Et à moitié, il est toujours Evet. Alors, lui, est-ce qu'il est obligé de faire Aliyat HaRegel? Alors, on a une machloket, est-ce qu'il est obligé de faire Aliyat HaRegel? Normalement, pour les autres mitzvot. Un Eved, il n'est pas tour de chauffard, parce qu'une femme n'est pas tour de chauffard. Un Eved, il n'est pas tour de loulaf, parce qu'une femme n'est pas tour de loulaf. Un Eved, il n'est pas tour de tfilin, parce qu'une femme n'est pas tour de tfilin. Tel est le dîn un homme qui est moitié Eved, moitié ben chorin. Est-ce qu'il doit écouter chauffard? Est-ce qu'il doit écouter l'état de tfilin? Alors la moitié de son corps est chayav, la moitié de son corps est pas tour. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il doit écouter les chauffards, parce que la moitié de son corps doit écouter les chauffards. Maintenant, si lui sonne chauffard, est-ce qu'il est yotze? Il a la halakha dit qu'il n'est pas yotze, parce que ceux qui sonnent les chauffards doivent être chayav mitzvot. Mais comme son moitié du corps est pas tour de mitzvot, donc c'est un son qui est fabriqué par une gorge, par des timbres vocaux qui sont moitié chayav, moitié pas tour. Donc le son n'est pas entièrement chayav. Donc, il ne peut pas être yotze, même lui. C'est machloka dans la Gemara. Alors, il est que même lui ne peut pas être yotze quand il sonne. Donc, Mati Eved, Mati Ben Chorin doit écouter chauffard, mais son son n'est pas valable, donc doit écouter de quelqu'un d'autre. Maintenant, vis-à-vis de la mitzvah de Ria, est-ce qu'il est chayav ou est-ce qu'il est pas tour? Alors, la Mishnah nous dit, Akol chayavim, qu'il est chayav. Akol etu yamai, la tu yami she chetsi Eved ou chetsi Ben Chorin. Ou la Ravine, Meta Pri Ravine Adamar qui dit, lui dit qu'il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Roi, c'est un pélé. Du moment que la moitié de son corps est Ben Chorin, donc la partie Ben Chorin doit faire aller à Teregel. Quoi? Parce qu'on dit qu'il y a un pied, il est Ben Chorin, un pied, il n'est pas Ben Chorin. Et la Torah nous dit que Shalosh Regalim, il faut les deux pieds. Peut-être il n'a pas des pieds entiers qui sont juifs. Bon, peut-être, on verra. En tout cas, Ravine, il avait dit, Mishechet Yevet, c'est inclus, c'est Hakol, va inclure toi. Quoi? Et tout Yechiger, Beyom Arishon, Benit Pachet, Beyom Sheni. Ça inclut un paralysé le premier jour de Yom Tov et qui a guéri le deuxième jour de Yom Tov. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le premier jour de Yom Tov, Pesach ou Sukkot, alors il est paralysé. Donc, il n'est pas tour. On a vu dans la Mishnah, ceux qui peuvent marcher à pied, il n'est pas tour. Mais le deuxième jour, c'est guéri. Maintenant, il peut marcher. Alors, est-ce qu'il est chayav maintenant d'aller ou pas? On peut dire parce qu'il a raté le premier jour, il était dispensé le premier jour, il est dispensé tous les 7 jours. On peut dire non, il est dispensé le premier jour, mais le deuxième jour, maintenant, il est chayav. Donc le chidouche de la Mishnah, il est hakol, même ce cas-là, il est chayav le deuxième jour. Rashi. Ravine de Amar, Ravine qui dit le Kaman Amrin et Pirkin Daftal et Damodal, Fani Chelaman de Amar, le Kaman Amrin et Pirkin Daftet, Sheish, le Korbanot Achak, Tashlumim Kolzain. Les fêtes de sacrifice, ou plutôt les sacrifices de la fête, elles ont Tashlumim Kolzain. Elles ont, on peut les compléter pendant 7 jours. Vif le Geba Amoraï, Yamachloket Amoraïm. Ikeleman de Amar, Tashlumin Zelazé. La philosophie de 7 jours, c'est Tashlumin. Ça veut dire remplacer le premier jour. Alors, j'explique d'abord avant de voir Rashi. Il y a deux possibilités de comprendre le korbanot pendant 7 jours. En vérité, on doit faire un korban. Un korban Raya, un korban shlami. D'accord. La mitzvah, le meilleur mitzvah, c'est de faire le premier jour de la prière. Et si je ne le fais pas le premier jour, alors je fais le deuxième. Est-ce que le pshat, il est le deuxième remplace le premier? Mériter le vrai chiyuv, c'est le premier. Mais comme je l'ai raté, hashlumin, je rattrape. Je fais le deuxième place du premier. Je fais le troisième jour à la place du premier. Je fais le quatrième jour à cause du premier. Ou non? Chaque jour, c'est un monde à part. Bon, c'est une philosophie, mais ça change quoi? Ça change pour l'homme qui était paralysé le premier jour, donc il était dispensé. Et le deuxième jour, il peut marcher. Si je dis que le chiouf du deuxième jour, c'est pour remplacer le premier, mais comme le premier, il était dispensé, le deuxième aussi, il est dispensé. Donc celui-là, il n'apporte pas tous les 7 jours, malgré qu'il est capable d'apporter les 6 autres jours. Mais si je dis que chaque jour, c'est un chiouf à part, il y a un des 7 jours que doit faire le korban. Ou le premier, ou le deuxième, le troisième, le deuxième jour a autant d'obligation que le premier, n'est pas là pour remplacer le premier. Donc, si tu dis que le deuxième, il est autant important que le premier, donc si le premier n'était pas tour, eh bien, le deuxième, il est chayav.
Question.
Oui.
Une question. Tout Israël, tous les hommes, tous les juifs d'Eretz Israël arrivaient le premier jour et présentaient leur korbanot et on avait le temps pour faire tout ça?
La majorité, pas tous, la majorité. Il y avait des vieux qui ne pouvaient pas voyager. Il y avait des gens malades qui ne pouvaient pas voyager. Il y avait des gens tamés qui ne pouvaient pas voyager. La majorité des juifs venaient, oui.
Et ça va, c'est plus compréhensible si on dit qu'on échelonnait ça sur 7 jours, non?
On peut échelonner. S'il n'y a pas de place le premier jour, on fait le deuxième jour, oui.
Oui, non, mais si vous dites que le Hiyou, c'est le premier jour, celui qui n'a pas pu faire le premier jour, après, c'est comme s'il n'a pas pu.
Non, je n'ai pas dit
c'est
ça.
C'est un tachloumin.
Tachloumin, je dis, oui.
D'accord.
Rashi. Hanich le mandama la kaman amrine be pirkin. Chez le korbanot achak tashlumin kol zain. Il y a les korbanot de la fête, on peut les compléter 7 jours. Vif le geba amorai. Ik le mandama, il y en a un qui dit tashlumin ze la ze. Vik le manda amar tashlumin de rishon hen. C'est des tashlumin kulam tashlumin de rishon. Tous remplacent le premier jour ou non? Quelle est la différence entre cette machloket? Chiger b'yom rishon, ceux qui étaient paralysés les premiers jours, n'ont pas cherché b'yom shini, ikemenayu. Mandamar, ceux qui découlent en tashlumin le rishon, ceux qui sont tous sans pour remplacer le premier jour, donc mishem chuyav b'rishon, ceux qui étaient chuyav le premier, velo hevi n'a pas apporté, yavi b'echad mishar yamim, il apporte un des autres jours. Mishem chuyav, mais ceux qui n'étaient pas chuyav le premier jour, enetzarich tashlumin, n'a pas besoin de remplacer. Et ceux qui remplacent, ce n'est pas pour le premier jour que ça va répondre. L'obligation, c'est pour tous les jours. Pas que pour le premier jour. Et car c'est pour ça. Même ceux qui est dispensé le premier jour, il peut le deuxième jour. Il doit apporter. S'il n'apportait pas le deuxième, il apporte le troisième jour. D'accord. Donc, on a un machloket. Donc, l'agma nous dit, d'après ce qui dit, quand on est paralysé les premiers jours, on est chayav le deuxième. Alors, ça, c'est le hakol. Hakol chayavim pour inclure. Elle est la mandama kulan tashlumin de rishon, hakol atu yamai. Et d'après l'avis qui dit qu'il est pas tour, alors pourquoi la Mishnah dit hakol chayavim tout monde chayav? Qu'est-ce que ça veut inclure? La tu yasum ba'achet meinaf. Ça veut inclure un homme qui est aveugle sur un œil. Ça veut dire, un homme aveugle sur un œil, est-ce qu'il est chayav? On a vu dans la Mishnah, un aveugle, il n'est pas tour. Ça veut dire quoi, un aveugle, il n'est pas tour? C'est un œil ou deux yeux? Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Torah? La Torah, il est marqué qu'un aveugle, il n'est pas tour. Où c'est marqué? Il doit être vu, kol zechucha. Chaque homme, il doit se présenter dans la Hazara. Hachem, il veut jeter un coup d'œil. Et toi aussi, tu as l'intention... Tu as l'intérêt de jeter un coup d'œil sur la Shrina, sur ce qui se passe au Beth Amikdash. Donc, on avait dit qu'il faut que l'homme y voit. Donc, il ne voit pas, il n'est pas tout. Mais il faut voir à deux yeux ou à un œil. Eh bien, la chidouche de la Mishnah, Hakola Atouye, ça va inclure que ceux qui vont avec un œil, il est Chayav. Ou de l'Oki Haïtana. Et donc, notre Tana n'est pas comme l'autre Tana de Tana Nebu. Yochanan ben Dahavai, Omer. Yochanan, fils de Dahavai, il a dit Mishum Rabbi Yuda, Souma, va achat meinav, un souma sur un œil, Il n'est pas tout remis. Il faut les deux yeux. D'après lui, on est rêve qu'on a les deux yeux, pas un œil. Je n'ai marre, il a marqué. Yeirae, yirae, yirae, yeirae. Il est marqué dans la Torah quoi? Yeirae. Mais on lit yirae. Non, on lit yirae. Et c'est marqué quoi? Yira, yirae. On va voir Rashi après. Si on a, en tout cas, on a un Gzera Sheba, Yir'e, Yir'ae. La Gemara nous dit que derrière Sheba l'Irot, Kach, Ba l'Iraot. De la même façon, Sheba l'Irot, que Hachem, il vient pour te regarder. Hachem, il veut te voir. Tu vois, Bet Amidash, Dieu veut jeter un coup d'œil sur toi. Mais pas seulement, Dieu veut jeter un coup d'œil sur toi. Il faut que toi aussi, tu jettes un coup d'œil que Vayachol sur ce qui passe au Beth Amikdash.
Rav Mechila, un œil, ce n'est pas aveugle, c'est borgne.
Borgne, exactement. Borgne. La machloque est télé sur une borgne. Voilà. C'est juste. La Mishnah nous dit, Souma, il est patour. Alors, s'il est Souma aveugle sur les deux yeux, il est patour. Et s'il est Souma sur un œil, ça veut dire en fond, c'est borgne. Alors, ça, c'est la machloque. Si c'est un borgne, il est rêve ou patour. Ce qu'en français on dit borne, on appelle en hébreu Souma ba'achat me'enav. C'est-à-dire, c'est balirot, kach balirot. Malirot bishtei einav. Comme on se fait voir, l'homme il doit se faire voir. Alors, j'ai pas bien dit. C'est-à-dire, c'est balirot, comme l'homme il se fait voir. Dieu, non. L'homme il doit se faire voir par Dieu. Yeirae kol zechucha. Tout ton mal doit se faire voir. Par qui? Par Dieu. Dieu veut jeter un coup d'œil. Mais quand Dieu regarde sur l'homme, Dieu regarde avec les deux yeux. C'est-à-dire, il regarde bien, bien. Alors, de la même façon que tu vas te faire voir, comme ça, tu dois voir. Il faut que tu es capable de lire avec Dieu. Alors, ici, il y a deux lectures sur ce lirot, lirot. Il y a plein de trucs ici. Rashi, vous avez Rashi, il y a un base. Vous avez Rashi et le base. Yir e, yir active. Yir e, il est écrit yir e, bekerena yeira e. Il est écrit dans la Torah yir e, l'ichora. C'est yud reish alef hei. Le mot yud reish alef hei. On appelle ça une écriture de yir e. Mais on le lit Yeirae. Hashchina Yeirae. Alors, on se dit le contraire. Lisons d'abord Rashi. Yir Eketif. Pourquoi Yir Eketif? Il est marqué tu verras. Vekarenan on dit Yeirae. Il sera vu. Yeirae kol zechucha et pnei ha'adon. De mashma sheha adam. Roé et Ashrina, l'homme va la Shrina. Yiré kol zechucha et pnei ha'adon. Yiré kol zechucha et pnei ha'adon, mashma she'adon ba lirotcha. Le patron, il veut te voir. Et que shakatuv riyatcha le riyato. Dieu a comparé ta vue à sa vue. Que derer sheba lirotcha. De la même façon qu'il vient pour te voir, Kachuba l'iraot mimcha. Comme ça, Dieu, il veut que tu le vois. Ma l'irotra bishteinav. Comme Dieu, il te voit avec ses deux yeux. Afkan l'iraot minha adam bishteinav shel adam. Ainsi, Dieu, il veut que tu le vois avec tes deux yeux. Ça soit dit un petit peu autrement. Yire, vous avez Tosfot, le dernier Tosfot. Yire, yire, keder sheba lirot. Peresh Rashi, keder sheba kadosh baruch hu lirotcha. Comme Dieu, il te voit avec les deux yeux, bishtei enav. Avata ba liroto bishtei enecha. Il faut que tu te vois, mais tu le vois avec les deux yeux. Lo yitechen rabbeinotam, de holoshaich bia gabishchina. On ne peut pas dire Dieu, il vient te voir. On ne dit pas Dieu, il vient te voir. Dieu, il est partout. שבכל מקום עוברות לדריש מסורת קודם, עד הרבה אלא לדרוש המקרא קודם, לקריטור. Après Rashi, Yiré, l'écriture, on dit, il y a, mais ça c'est encore un autre pilpoul de truc. Al Kengaris Rabinotam, Yiré, Yiré, ma lirot, bishteinaf, shadam ba lihitraot, Yira, Yira, ma lirot, bishteinaf, shadam ba lihitraot, bishteinaf, shadam ba lirot, shadam ba lirot, shadam bishteinaf. Il y a la chéla, est-ce qu'il faut dire d'abord l'homme, Dieu, ou Dieu, l'homme? Est-ce que d'abord Yire, Yirae, ou Yira, Yire? Bon, ça ne change pas. On arrive à la même askana. Alors, en tout cas, Dieu, il te regarde avec les deux yeux. Il faut que toi, tu vas Dieu avec les deux yeux. Et donc, derer sheba lirot, la question, elle est comment il faut lire? Que derer sheba lirot, de la même façon qu'il vient pour voir. Qui est-ce qui vient pour voir? L'homme, il vient pour voir Dieu ou Dieu, il vient voir l'homme? D'après Rashi, Dieu vient voir l'homme. D'après Rashi, que derer sheba lirot, de même façon que Dieu vient voir l'homme avec deux yeux. Et on se dit, Dieu ne vient pas voir. L'homme, que derer sheba lirot, de la même façon que l'homme, il va voir Dieu, comme ça, Dieu, il te voit. Et Dieu, il te voit avec les deux yeux. Alors, on va continuer. Bibaite, amen. Donc, notre Mishnah, il pense à un borne il est chayav. Et un autre, il y a un borne il est patour. Quelle est la logique qu'un borne il sera patour? Quelle est la logique de mettre qu'un souma il est patour?
On voit aussi bien avec deux yeux qu'un œil, c'est la même chose?
Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Si vous permettez, quelqu'un qui a un seul œil ne voit pas le relief. Notre cerveau, il fait dans l'ordinateur. Il devine les reliefs, mais si on garde très longtemps, très très longtemps un seul œil, après les reliefs disparaissent. Ce n'est que parce qu'on a deux yeux qu'on arrive à distinguer la profondeur de champ. Après, tout se raplatit. Alors, peut-être la splendeur de Jérusalem, on ne peut l'avoir que d'un seul œil. Et alors, ce n'est plus vraiment la splendeur. Et sans relief, ce n'est plus la même splendeur.
Ce que vous dites, c'est que la qualité de vue. C'est la qualité de vue qui fait qu'il se répare à haut pour la réia. Mais la vérité, on peut dire aussi que c'est un moum. Peut-être c'est à cause d'un môme. Un
môme, c'est pas tout pour les konim qui travaillent. Mais on n'a pas vu un môme dans les autres mitzvot. On n'a pas vu qu'un homme qui a bal môme, il n'est pas tout d'autres mitzvot. Mais la question, elle est, qu'est-ce qui est si important de voir? Quand il irait de voir les juifs en Égypte, dans la Hazara, c'est voir la Shrina. Ça donne une impression phénoménale. Et celui qui est aveugle, il ne peut pas voir ça, il est dispensé. Il rate une grande partie de la mitzvah. La mitzvah, c'est de voir comme ça 100 000, 200 000 juifs avec les kohanim qui travaillent et tout. C'est un aspect merveilleux. Et ça s'appelle voir la shrina. En plus, tout le monde il est debout. Après, tout le monde se prosterne. Et quand on se prosterne, il y a quatre coudées. C'est phénoménal. C'est un phénomène. Il faut voir ça, c'est tu es subjugué. Tu es 100 000 juifs, ils sont dans la Hazara, et on fait Birkat Kohanim, on fait Mishtah Chavaya, on se prosterne, et tout le monde est à la place. Et Rashi en plus, il dit, largement place, quatre coudées, chacun il a quatre coudées autour de lui. Alors, on va continuer. Vibay Teima, et si tu dis le Olam Kede Amrami Ikara, je veux dire la première réponse, que le Hakol, c'est bien inclure Chetsu Evet et Chetsu Ben Churin. Ou de que cache la chad ravina, mais tu as un couché à ravine, il lui dit qu'un demi ben chorin, demi eved, il est patour d'après ravina. Le caché, ça c'est pas un caché. Quand be mishnah rishona, quand be mishnah shnia. La première mishnah, le premier enseignement, le deuxième enseignement, c'est à quoi? Maintenant, on a vu dans une mishnah. Mishé chetsi eved ve chetso ben chorin. Oved et rabo yom echad, vet atzmo yom echad. Il travaille pour son patron un jour et pour lui-même un jour. Normalement, Evet, il est obligé de travailler pour son patron et le bénéfice appartient au patron. Et s'il est moitié Evet, moitié Ben Chorin, donc le lundi, il travaille pour le compte du patron et le mardi pour son propre compte. Le mercredi pour le patron de la patron et le jeudi pour son propre compte. Vivre Bet-Hillel, voici les paroles de Bet-Hillel. Amorim Bet-Shemay. Bet-Shemay, ils ont dit, « Tikante mes travaux, ça arrange bien le patron. » Et atzmo lotikantem, mais c'est pas une situation tenable pour lui-même, parce que l'issa shifra en yachol, il n'a pas le droit de se marier avec une servante, parce qu'il est moitié Ben-Hurin. Un Ben-Hurin n'a pas le droit de quoi? Un Ben-Hurin n'a pas le droit de... Un Ben-Hurin n'a pas le droit de se marier avec une Shifra. Et Bat-Hurin... L'issa Shifra en Yachol, Bat-Hurin en Yachol. Il ne peut se marier ni avec une Shifra, ni avec une Bat-Hurin. Parce que s'il se marie avec une Shifra, il y a sa moitié Ben-Hurin qui touche une Shifra, il n'a pas le droit. Et s'il se marie avec une Bat-Hurin, il y a sa moitié Evet qui touche une Bat-Hurin. Un Evet n'a pas le droit de se marier avec une Bat-Hurin.
Ni avec une moitié-moitié, en vrai.
Et ni avec une moitié-moitié non plus. La Gemara ne développe pas ici, mais elle développe ailleurs. Même avec un truc aussi, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que sa moitié Ben-Hurin va toucher la moitié Shifra. Libatel. Donc, qu'est-ce que tu dis? On peut quoi? On reste tel quel. Ça veut dire quoi? On reste tel quel. On ne se marie pas. Eh bien, il n'a qu'à rester célibataire. Mais ça aussi, ce n'est pas une solution. Le monde a été créé d'un système de 8 avoir d'enfants. Chaque homme doit mettre des enfants au monde. Quelle partie doit mettre des enfants au monde? La moitié Ben-Hurin ou la moitié Evet? En tout cas, la moitié Ben-Hurin, c'est sûr. Et la moitié Ben-Hurin, cette moitié doit faire pour vous. Maintenant, la moitié Bat-Hurin, moitié Evet, peut-être, il n'est pas tour. Mais en tout cas, il a la moitié qui est Ben-Hurin. Là, il est Mechouyaf. Ce n'est pas, il est marqué, l'Otohu Bera'a. Dieu n'a pas créé le monde pour rester vide. Le Shevet Yetzara, pour s'installer, Dieu, il a créé le monde. Que chaque homme, il fait ce qu'il peut faire pour mettre des enfants au monde. Et là, Mipnei Tikkun Ha'olam, Kofin et Rabo, Vosi Oto Ben-Hurin. Donc, Rachamim, ils obligent l'homme de divorcer. Non, le deuxième Shoutaf qui garde qu'il est Evet, tu dois le libérer. Tu écris un papier. Oui, je veux bien, comme ça il peut se marier, mais je vais perdre d'argent. Tu m'appartiens à moitié. Et après, une fois que tu es Ben-Hurin, tu vas gagner et tu vas payer la moitié du prix d'un Eved. Un Eved, il se vend à 10 000 euros. Je te libère, tu me dois 5 000 euros. L'autre, tu étais déjà d'autre, tu as donné. Mais à moi, je vais vouloir te donner. Je te libère pour que tu puisses te marier, mais tu me payes 5 000 euros. Avec quel argent tu vas gagner? Après, tu vas me payer 5 000 euros. Il a écrit un papier, je vous dois 5 000 euros. Ils ont raison. Et donc, à notre époque, il est chayav, c'est-à-dire, tout ce que Rabbin il dit qu'il n'est pas tour, c'est à l'époque où Bet Hillel disait on le laisse comme ça. Mais à notre époque, il y a une obligation de libérer, donc la moitié Ben-Hurin, il est chayav paria, parce que le patron il doit le libérer. Mais le roi, ce n'est pas encore clair. C'est vrai que le patron, il doit le libérer. Mais tant qu'il n'est pas libéré, il est pas tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il est moitié Ben-Hurin. La Gemara veut dire que ça n'existait pas, parce que Menefi Betile, tout ce qu'il faut libérer, donc ça n'existait pas. Alors, si ça n'existait pas, la Mishnah n'a pas besoin de le parler. Pourquoi elle me dit que Hakol Chayvim et le moitié Ben-Hurin, mais ça n'existe pas? Donc, ça existe, oui. Ça existe tant que le patron n'a pas libéré. Alors, tant que le patron n'a pas libéré, il est toujours Ratiel Khatib Ben-Hurin. Alors, pourquoi il est obligé?
On va d'après Bet Hillel et puis c'est tout. Comme ça, si le jour de fête, il est dans le jour libre, il donne le sacrifice. S'il est Eved, il donne le lendemain.
Non, le fils Rabine, il n'est pas tour. Rabine, il dit Khatib Ben-Hurin, il n'est pas tour. C'est pour ça, le fils Mishnah Rishona, que Bet Hillel, il a dit, le fils Ravine, le fils Bet Hillel, dans l'époque de Bet Hillel, avant le changement d'avis, Hatirev, Matzi Ben-Hurin, il n'est pas tour. Quoi? Il n'est pas tour. Mais maintenant, aujourd'hui, on a Khayab, parce que Bet Hillel a changé de vie, on est obligé de libérer. Oui, alors j'ai dit, on est obligé, mais on ne l'a pas encore libéré. Il faut dire que même le fils Bet Hillel est obligé de libérer. Il n'est pas libéré, mais il n'est pas obligé de travailler. Pour faire pression sur le patron, ils ont dit qu'il n'est pas obligé de travailler. Ou même, il est dur qu'il n'est pas obligé de travailler, va mettre le khayaf. L'obligation du patron de le libérer, rendre le Eved, dispensé de travail. Et comme il est dispensé de travail, il est chayav. Tout ce que Beth il est dit qu'il est pas tour, tout ce que Ravine est dit qu'il est pas tour, le fils Beth il est, c'est contre Bémet, il y a une obligation de travailler. Comme le mat est encore de travailler, alors tu n'es pas chayav beria. Mais maintenant que Beth il est, ils ont changé de vie, malgré qu'il n'a pas donné les shtar, il est quand même chayav de faire la mitzvah parce qu'il n'est pas obligé de travailler. Alors, kotz misher cher shoté vekatan, dofen cher shoté vekatan. Katan, Katani, Cheresh, Domier de Choté. Il est marqué le mot sourd-muet à côté de Choté. Le Katan. Le sourd-muet à côté de Choté, le Katan. Ma Choté, le Katan, de l'Avbdea, comme la raison d'un Choté de Katan. Pourquoi ils ne sont pas tous? De l'Avbdea, parce qu'ils n'ont pas assez d'intelligence. Av Cheresh, de l'Avbardea, comme ça, un sourd-muet, il n'a pas assez d'intelligence. Le Kamash Melan, donc la Mishnah, je peux déduire ici, Kedetnan, comme la Mishnah. Cheresh, et Dibrou, Chachamim, Bechol, Makom. Quand les Charizons parlent de Cheresh, c'est Eino Shomer, Veino Medaber. Qui n'entend pas qu'il ne parle pas. Ah, Medaber, Veino Shomer, Shomer, Veino Medaber. Il est Chayav. Ça veut dire, le mot Cheresh peut pencher à un quiproquo. On peut se tromper. On trouve des fois l'expression Cheresh, veut dire muet. Des fois, on trouve sourd. Et des fois, on trouve sourd-muet. Maintenant, ça, c'est dans le langage humain. Les gens dans la rue utilisent le mot cheresh pour un de ces trois. Mais les chachabim, quand ils parlent de cheresh, quand les chachabim disent cheresh, il n'est pas tour de mitzvot. Eux, ils pensent à qui? Alors, la Gemara nous dit, chachabim, ils pensent au sourd-muet. D'où je sais. Peut-être... Même s'il ne parle pas, il n'est pas tour. Ou s'il n'entend pas, il n'est pas tour. Mais non, on a mis Cheresh à côté de Choté Bekatan. Et Choté Bekatan, c'est quoi la raison? Parce qu'ils n'ont pas assez d'intelligence. Alors le Cheresh, son intelligence est diminuée quand il est sourd-muet. Mais il est sourd, mais pas muet. Muet et pas sourd, il est assez intelligent. Et dans ce cas-là, il est Cheresh Mitzvot. Maintenant, s'il est muet, mais il n'est pas sourd, donc il entend, mais il ne peut pas parler. Alors je peux comprendre que son intelligence augmente tous les jours. Il entend. Du moment qu'il entend, le cerveau se développe bien. D'accord. Mais si quelqu'un, il sait parler, mais il est sourd. Alors comment il sait parler? Il n'entend pas. D'abord, ceux qui n'entendent pas, comment il peut parler? Comment c'est la mitzvot bichlal? Il fait les gestes, mais il fait sortir du son de sa bouche. Mais quel son? Le son des mots. Mais il ne les a pas entendus. Alors, comment il peut parler?
Il est devenu sourd après.
Alors, on va dire qu'il est devenu sourd après. Alors, si quelqu'un il est devenu sourd après, tu dis, il est intelligent. Alors, même s'il est sourd-muet, quelqu'un qui est venu sourd-muet à 20 ans, est-ce qu'il est chayav mitzvot? Quelqu'un qui a vécu jusqu'à 20 ans, il a écouté et parlé, et à 20 ans, il est devenu sourd-muet. Est-ce qu'on n'est pas tour de mitzvot?
On n'est pas tour. On est chayav. On garde le statut de ce qu'il avait avant. Il n'est pas dépourvu d'intelligence, ce monsieur.
Alors, la question, pourquoi il est devenu sourd-muet? Parce que quelque chose de technique, on lui a fait une opération dans les timbres et c'est pour ça qu'il est devenu muet. Est-ce que c'est quelque chose de technique ou sourd parce que dans l'oreille, il était à côté d'une explosion et l'explosion, il a fait quelque chose dans l'oreille qu'il n'entend pas, mais c'est techniquement, c'est mécaniquement, ou il est sourd-muet parce que dans le cerveau, il y a quelque chose qui est atteint? Alors, l'Echora, si c'est mécaniquement qu'il est sourd-muet, qu'il est devenu sourd-muet, alors tu as raison, l'Echora. Pourquoi tu veux que l'intelligence il sera diminuée?
Ça ne change rien.
Qu'est-ce que c'est dire ça ne change rien?
Que ce soit mécanique ou que ce soit, ça vient du cerveau, quoi qu'il arrive, il a acquis de l'intelligence jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, son intelligence, elle reste.
Peut-être, non. Peut-être si c'est dans le cerveau il y a un jaune qui réfléchit, qui donne le pouvoir d'écouter, de parler. Si cette zone est atteinte, peut-être ça diminue l'intelligence.
Mais même si on admet que ça n'a pas diminué l'intelligence, que ça n'a pas diminué l'intelligence, peut-être qu'il n'est pas patour de faire la RIA. Peut-être qu'il peut y aller, il doit y aller. D'après la Gemara, peut-être qu'elle va dire que, après j'ai cru lire que si jamais il n'a pas été atteint dans ses facultés mentales, ce n'est pas parce qu'il est sourd et muet qu'il ne doit pas aller faire la mitzvah de RIA. Peut-être qu'il doit continuer à la faire. Si vous prenez le cas d'un gars qui a eu...
Laisse la RIA. On n'est pas dans la RIA, Bechlal. Je ne suis pas dans la RIA. On dit, il y a un halakha, qu'un cheresh, il n'est pas tourné à mitzvot.
On parle d'un sourd de naissance, parce que normalement, un sourd de naissance, automatiquement, il est muet. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est-à-dire que s'il n'entend pas, depuis la naissance, il ne peut jamais reproduire les sons qu'il entend. Donc, un sourd de naissance est forcément muet. Parce que l'intelligence est un petit peu séparée de ça.
Alors, je reviens à ma question. La Gemara nous dit qu'il y a trois cas. Il y a un cas où un homme, il entend, il ne parle pas, il parle, il n'entend pas, ou les deux, il ne peut pas. La Gemara nous dit qu'il y a trois cas. Et le cas qu'il n'est pas tour de mitzvot, c'est quand il est sourd-muet. Mais s'il est muet et pas sourd, et sourd et pas muet, il est chayab mitzvot. Comme ça dit la Gemara. Maintenant, vous dites, il n'existe pas qu'un homme, il parle s'il était sourd depuis la naissance. Alors, le cas de la Gemara, qui nous raconte un cas où il est sourd, mais il n'est pas muet, c'est le cas qui est venu après la naissance. Alors, si c'est après la naissance, je pose la question, si ce cas-là de « il parle, il n'est pas sourd, c'est après la naissance », est-ce qu'elle le dit s'il est sourd-muet après la naissance? Mashma de la Gemara, qu'il n'est pas tour de mitzvot. Parce que vous dites que le cas de « il parle et il est sourd » ne peut exister qu'après la naissance. Donc, le sourd-muet de la Gemara parle aussi après la naissance. Et donc, la Gemara, même celui-là, il n'est pas tour. Ah, pourquoi il n'est pas tour? Mais Dr. Amilim, il a dit que quoi? Que son cerveau, il n'est pas atteint. Alors, j'ai essayé de défendre la Gemara, qu'on parle que le cerveau, il est atteint. Et donc, peut-être oui, l'intelligence est atteinte. Ou on va répondre autrement. On va dire que même si ce n'est pas le cerveau, même si c'est mécaniquement, il est sourd-muet, mais le fait que maintenant, il n'est plus en contact avec les gens, son intelligence diminue. Parce que le maasé, son intelligence diminue, parce que maintenant, il est sourd-muet. Même si après la... Ou on va dire autrement, si c'est après l'ami, après, si au début il est entendu parler, il a toujours un din de normal. Toute la sugya parle que depuis la naissance. Et on va dire qu'il existe un homme, il est sourd et il n'est pas muet, malgré que c'est depuis la naissance. Il existe qu'un homme, il parle malgré qu'il n'entend pas. Et on croit, il est chayav mitzvot. S'il est sourd, muet, il n'est pas tour, parce qu'il n'est pas assez intelligent. Et pourquoi, s'il parle, il n'entend pas, pourquoi il est chayav mitzvot? Parce que les gens l'entendent parler, mais lui n'entend pas. Alors, en quoi son intelligence se développe? Parce qu'il parle. Et comment il a appris à parler? En regardant sur les lèvres des autres. Alors, même un sourd, muet peut apprendre. Non. Un sourd-muet, c'est quand même plus diminué. Il est quand même plus diminué. Mais si, en regardant sur les lèvres des autres, il peut apprendre, lui, il s'est développé le cerveau. Ou le pshat, il est que même si c'est mécaniquement, toujours son, mécaniquement, il est devenu sourd-muet après même, toujours, il comprend plus bien qu'est-ce qui se passe. Il est toujours pas tour. C'est un grand chidouche. Parce qu'il y a une autre question. On avait dit que Katan, il est pas tour, oui. Et qu'est-ce que c'est Katan? Moins que 13 ans. il faut 13 ans acheter sa rote. S'il a 13 ans et deux poils, alors il est adulte. Moi, il n'a pas de date. Maintenant, il y a une question. Il y a des enfants de 12 ans, des fois, ils sont plus intelligents que les enfants de 14 ans. Pourquoi la Torah, il avait dit 13 ans et deux Saharot? Si ça marche d'après le cerveau, il faut faire un test de QJ, comment ça s'appelle? On va faire un test. Pourquoi la Torah nous dit 13 ans et deux Saharot? La réponse, elle est, la Torah ne veut pas faire un test d'intelligence. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à s'en sortir à quelque chose. La Torah veut des choses bien visibles pour le Bedin. Il a 13 ans, c'est, on a deux témoins le jour qu'il est né. On a des témoins, il a aujourd'hui le bar mitzvah. De sa rote, c'est des choses visibles. Hein? On peut juger dessus. On peut dire, il a tué, il est Mechal el Shabbat, il a Chayav Mita, il n'est pas Chayav Mita. Il faut que le Bedin se base sur des choses visibles. La Torah ne veut pas donner, dès là on va se disputer éternellement sur l'intelligence d'un garçon de 12 ans, de 13 ans, de 13 ans, moins un jour, trois jours, trois heures et demie, tu vas te disputer éternellement. On ne peut pas dire. Et comment les Dayanim, ils ont le truc, faire un truc QJ, comment ça s'appelle là-bas, une analyse d'intelligence, on va se disputer sur ça aussi. Ça dépend de quelle question tu demandes, et comment tu demandes, qu'est-ce qu'il a pilé. Et c'est un adabasof. La Torah ne veut pas des histoires comme ça. Donc, il y a des choses visibles. Ça, c'est vis-à-vis de l'âge, Katan. Maintenant, choté, c'est un peu plus délicat. Quand on définit quelqu'un s'il est choté ou pas, ça aussi, on peut se disputer. Et le rachonim et le rabbanim, ils se cassent la tête. Qui a un din de choté? Le kidushin, le gitin d'un choté? Un homme qui disjoncte? Quel est le degré de disjoncté pour qu'on sera que le get kidushin et kidushin de chayav? Malheureusement, c'est difficile à définir, mais on n'a pas de solution, on est obligé de se casser la tête. Mais maintenant, la question pour Kheresh. Sourd-muet. Un sourd-muet, comme il n'est plus en contact avec les gens, il est moins intelligent. Mais il y a différentes catégories. Il est né sourd-muet, ou il est né, il entend, mais après il perd, ou il perd par le cerveau, ou il perd mécaniquement. Il y a toutes sortes de cas. Alors, peut-être, la Torah ne voulait pas rentrer trop dans les cas, parce qu'étant donné que même le sourd-muet, il peut aussi se développer bien, d'une certaine manière, mais il est toujours un peu diminué. Alors, quoi est-ce qu'on dit? Peut-être la Torah, elle dit, on va pas se casser la tête. Nous, on a besoin des choses visibles. On dit, il est sourd-muet, il est diminué, il n'est pas tout.
Point la ligne. Il n'est pas diminué, il est fou. À leur époque, il était fou, le sourd-muet. Il n'était pas sollicité. Donc, il était choté. Il avait un comportement irrationnel.
Docteur.
Mais en tout cas, on ne peut pas faire
ce que vous dites ne correspond pas à la Gemara.
Pourquoi?
Dans Yevamot, ni à notre Mishnah. Parce qu'il est marqué dans la Gemara Kheresh. Choté et katan, ce sont trois choses. Kheresh, choté et katan. Et on dit lav benei deya ninhu. Ce sont trois cas de benei deya. Maintenant, un enfant de 12 ans, de 11 ans, il est katan. On appelle lav benei deya ninhu, mais on ne l'appelle pas un katan. Il n'est pas tour parce qu'il est choté. C'est parce qu'il est katan. La Gemara nous dit choté et katan. Ce sont deux définitions. Vous n'allez pas dire à un enfant de 12 ans, tu n'es pas tour de mitzvot parce que tu es choté. Non, monsieur, je ne suis pas choté.
Mais je suis katan. Moi, je vous parle du Kheresh. Le Kheresh, voilà. il est domé la choté.
Alors, si vous dites le Kheresh, il n'est pas tour midin choté, alors pourquoi ça s'appelle Kheresh le choté? Il faut appeler que choté. Il ne faut pas créer un moussac.
Choté, c'est quelqu'un qui paraissait normal au départ, et puis tout d'un coup, il a eu des comportements qui font apparaître qu'il est choté. Tandis que le pauvre, le Kheresh, étant donné qu'il n'a pas pu se développer, il va avoir un comportement de choté tout de suite.
Alors donc, il est choté tout de suite, alors je n'ai plus besoin de dire le mot Kheresh. Dis choté, étant donné qu'il est encore pire que le choté. Vous dites le choté, je pense qu'il est normal, après je vois qu'il n'est pas normal. Vous dites le Kheresh, depuis le début, il n'est pas normal. Alors, il faut supprimer le mot Kheresh de la Mishnah. Il faut dire un choté, bekatan, et pas tout. Mais le magma dit Yevamot que le Kheresh, il est plus intelligent que le Sotri. Il n'est pas Sotri, le Gemara. Le Gemara dans Yevamot, le Maasé, Achita de Rabbi Eliezer, qu'un Kheresh, le Gemara appelle ça, il n'est pas Sotri, mais Data Klishta. Son date, il est faible. Il a un date faible, mais pas du tout Sotri. Alors, pour définir médicalement, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire, docteur. Le Sotri, c'est un homme qui peut être date et charif, et un charifout, klishta, c'est-à-dire il n'est pas piquant, il est faible. Le Sotri peut être archi-intelligent, mais il est fou allié. Mais il a un charifout, ça c'est un Sotri. Et Sotri, il y a quelque chose qui tourne par an, mais il est intelligent. Le Kheresh, il n'est pas assez développé. Il est date klishte. Maintenant, c'est un autre sort. Un enfant, il est charif, pas date klishte, mais il n'est quand même pas mûr. Il n'est quand même pas mûr. Et là, quelqu'un, il demande autiste. Et M. Bitton, il demande un autiste. Alors, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il y a toutes sortes d'autisme.
Non, toutes sortes de psychotiques. Le Sotri, c'est un psychotique. Donc, ouais. L'autisme, ça rentre dans la psychotique, le schizophrène, le paranoïaque, tout ça, ça rentre dans le cadre des psychotiques.
Attends, paranoïaque, alors attendez, paranoïaque, là, vous venez dire là, une bombe atomique, là. Ouais. Là, vous venez dire une bombe atomique.
Il est fou.
Attends, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez paranoïaque, mais je pense aussi...
Paranoïaque, c'est quelqu'un qui interprète tout d'une certaine façon et cette façon, elle est erronée.
Oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu paranoïaques, un peu...
Ah,
ça,
c'est un profil, mais ça ne veut pas dire que c'est des paranoïaques. Il y a des gens qui sont un peu obsessionnels, parano, mais ça, c'est comment dirais-je, c'est un peu de teinture, un peu de...
Ah, ça, est pas, ça n'est pas Sotri pour ça. Un homme qui a peur, je ne sais pas, il fait attention quand il marche dans la rue, qu'on ne lui jette pas
des... C'est une phobie. Non, ce n'est pas un psychotique. Phobie. Le psychotique, il a un trouble du raisonnement. Il voit, par exemple, un match de rugby, il les voit faire la mêlée, ils disent, voilà, ils sont en train de comploter contre moi.
Ouais, vous avez entendu la dernière blague, je l'ai lue ce matin. Mais hier soir et ce matin, je l'ai lue. Mais c'est phénoménal. Vous avez entendu le dernier phénomène?
Raconter.
Mais vous le trouvez sur Internet, pas besoin que je vous le raconte.
Non, c'est mieux quand vous racontez.
J'ai un ami en Amérique. Oui, il n'est pas très pauvre. Bill Gates, oui. Alors, il est accusé d'avoir fabriqué le coronavirus avec l'intention de mettre un vaccin sur le monde, dans le monde. Pour gagner d'argent. Et il a manipulé tous les chefs d'État et tous les médecins du monde. Celui qui l'a fabriqué, ils apportent des preuves phénoménales. C'est une blague de Pourim, c'est extraordinaire. Il est vrai qu'en 1900, en 2015, il a dit officiellement, dans plusieurs discours, « Moi, j'ai peur qu'un virus va venir au monde et il faut trouver des vaccins contre ça. » Et ça peut tuer des millions de gens. Et il a investi beaucoup, beaucoup d'argent. Il a fait un don pour... Et il a prédit, il avait un sixième sens que ça peut arriver. Et il faut sauver le monde. Et il a acheté des parts dans des trucs pharmaceutiques. Mais seulement, cette idée, elle est tellement folle. Parce que s'il veut gagner de l'argent avec les vaccins, s'il aurait voulu faire ça, il aurait dû faire d'abord fabriquer les vaccins, après amener le virus. Comme ça, il va gagner d'argent. Mais maintenant, s'il aurait fait les vaccins, s'il aurait fait la maladie sans les vaccins, eh bien, il perd beaucoup d'argent. Parce qu'il compte le monde.
Mais pour vendre le vaccin, il faut qu'il y ait des morts. S'il n'y a pas de morts, il ne vend pas le vaccin. Il faut vraiment que les gens aient peur.
Pour ça, donc, d'abord, sinon, il perd beaucoup d'argent. Pendant le monde et les pendant trois. C'est... Alors, je vous demande.
Vous l'avez vu la conférence, vous, il y a 5 ans, de Bill Gates?
Je n'entends pas.
Vous l'avez vu la conférence de Bill Gates il y a 5 ans?
Je l'ai vu sur Internet. Non, peut-être oui. Ça n'existe pas.
Si, si, il a parlé, c'était à l'époque de notre virus.
Oui, alors, alors
on dirait un prophète.
Il y a des gens, mais qu'est-ce que tu crois qu'il est devenu riche? C'est parce qu'il a un peu un sixième sens. Il y a des gens, il a
je vais l'envoyer dans le groupe.
Hein?
Je vais l'envoyer la conférence dans le groupe, vous allez voir.
Non, mais c'est sûr qu'ils ont un sixième sens. Ils prévoient, c'est une affaire, il le sent.
Depuis qu'il est petit, il a un sixième sens. Pourquoi il a réussi? Qu'est-ce que tu crois?
À l'époque, c'était peut-être le virus Ebola.
Non, on dit pas que là.
Oui, c'était pendant le virus d'Ebola, exactement. Ça, ouais. Il a investi beaucoup d'argent pour sauver les gens de l'Ebola. Et il a dit, ce genre de virus peut venir dans le monde entier, il faut faire. Non, maintenant, l'accuser et imaginer que lui, il a acheté tous les médecins, il tourne la tête. Alors,
fake news.
C'est phénoménal. C'est phénoménal. Il faut lire le truc, le pour et le contre. C'est phénoménal. Mais alors, je dis, un homme, je parlais ce jeudi avec un homme qui croit à ses thèses. Et un type qui m'a envoyé, tout ce coronavirus c'est faux, vous allez lire sur Internet, vous allez voir, c'est Bill Gates qui a fait tout. Alors, j'ai dit, monsieur, vous êtes sérieux? Il me dit, oui, c'est évident. Alors, est-ce que cet homme-là, il n'est pas tourné la mitzvot?
Non, il a un petit profil comme ça, avec un trouble du jugement. Voilà. Mais voilà, il n'est pas voilà, complètement fou.
Il est normal. Ça s'appelle la théorie du complot. C'est des gens qui ont... Ah, il existait une dame connue, Hélène Keller. Oui, ça c'est juste. C'est un aveugle, sourd et muet. Ça c'est un phénomène. J'ai une fois acheté ce livre, je ne l'ai jamais lu. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Hélène Keller, un phénomène. Aveugle, sourd et muet, elle était intelligente. Bon, alors, je demande, je reviens pour revenir, pour ne pas se perdre. Ce sont trois définitions. Maintenant, je dis comme ça. L'enfant, il est intelligent et il est sensé, mais il n'est pas mûr. La Torah ne veut pas le rendre coupable de chiouf mitzvot et mitzvot parce qu'il manque quelque chose. Donc, il n'est pas terminé. D'accord. La Torah, il n'est pas tout. Et en vérité, il y a des enfants de 12 ans qui sont plus développés des autres 14 ans, mais la Torah veut avoir des définitions claires. Il va avoir des définitions claires. Donc, elle dit 13 ans, jeter sa route, c'est clair. Normalement, à 13 ans, c'est comme ça et c'est pour tout le monde le même prix et c'est tout. Maintenant, choter, on est obligé de se casser la tête. Maintenant, Kheresh. Le Kheresh, il est moins développé. Maintenant, aujourd'hui, on peut être développé beaucoup le Kheresh. Il y a un Tchouva du Ketav Sofer, il a écrit ça en 1860, je suppose. Mistamaïl et Niftar en 1870. Mistamaïl a écrit cette chouva en 1860 à peu près. Alors à Vienne, il y avait une école de sourds-muets pour leur apprendre ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui Mistamaïl s'est mieux développé, je suppose. Depuis 150 ans, il y a beaucoup de choses qu'ils ont avancées. Mais eux, ils avaient déjà cette école. Et le Ketav Sofer, il habitait à Bratislava, il a vu les gens. Il a vu, ils sont, c'est autre. Alors, il dit peut-être aujourd'hui les Khayaf. Peut-être maintenant les Khayaf. Alors, moi, je pose une couchette sur le Ketav Sofer. Je n'ai pas vu la Tchouba, qu'est-ce qu'il dit, mais je pose une couchette comme ça. Si nous allons lire un pshat dans la Gemara, que le Kheresh qui est pas tour, c'est même, pas seulement un Kheresh qui est né comme ça, mais un Kheresh qui l'a perdu après, et malgré qu'il a un certain développement, nous allons dire, parce que du moment que c'est un peu atteint, et ce sont des définitions claires, la Torah aime des définitions claires. Il n'entend pas, il ne voit pas. On peut vérifier, c'est vérifiable. Comme l'âge est vérifiable, c'est des signes vérifiables. Il n'entend pas, il ne voit pas. Et à cause de ça, il est diminué. Paf, la Torah ne dit pas tout. Maintenant, tu dis, oui, mais lui, il est intelligent. Peut-être la Torah ne rentre pas dans les détails. De la même façon qu'un enfant de 12 ans qui est génial, qui est bémet génial, qui est équilibré et tout. Et la Torah ne rentre pas coupable. Pourquoi? Parce que la Torah marche d'après la majorité. La majorité des enfants de 13 ans ne sont pas assez mûrs. La Torah veut des choses claires. Donc, le Kheresh, il est diminué, on ne fait pas de différence. Dans ce cas-là, même si aujourd'hui on l'est apprendre, hein, et le Kheresh, il est apprendre, il est quand même pas tout. Mais ça, c'est Bamed devant Amourim que je dis ça. Si j'aurais une preuve de la Gemara, que le Kheresh de la Gemara parle même, qu'il a au début, il a parlé et après devenu. Mais si on va dire que toute la Sugya parle, il est né comme ça. Dans ce cas-là, s'il est né comme ça, Badaï, il est moins développé. Je ne parle pas maintenant aujourd'hui, mais Badaï, il est diminué beaucoup. sont dans ce cas-là. Et un homme qui est venu après Kheresh, peut-être, peut mettre il a chayav mitzvot. Alors, si j'ai dit que la Gemara parle qu'il était depuis la naissance Kheresh, alors comment j'ai expliqué la mitzvot qu'il parle sans entendre? On revient à la première question que je demandais. S'il est né sourd-muet, s'il est né sourd, comment il peut être pas muet? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce qu'elle parle la réalité? Est-ce que sur Internet il existe un homme qui est sourd mais qui sait parler et depuis la naissance? Est-ce que ça existe dans la mitzvot?
Normalement non.
Et sur Internet, est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous avez?
Il y a pas. Oui,
est-ce que vous trouvez ce cas?
Il crie fort. Ça peut être une surdité secondaire. C'est-à-dire au début il entendait et il parlait. Après, il n'entend plus. Il est arrivé, par exemple, il a eu des traitements. Il y avait à un certain moment un médicament qui lui donnait de la surdité. C'était la streptomycine. C'était un de ses inconvénients. Et donc, après, il devenait sourd. Mais il pouvait continuer de parler.
Oui, non, mais je parle maintenant. Je demande, est-ce qu'il existe dans la littérature médicale un homme qui est né sourd et il parle?
Ça paraît difficile.
Avec les appareillages, maintenant les nouveaux appareillages, ils arrivent à faire écouter des sourds qui greffent des puces dans les cerveaux près de l'oreille.
Oui, oui. Ça dépend quel genre de sourd. C'est un sourd qui est sourd pour une certaine faille de mécanique. Qu'un puce peut remplacer. Il y a un appareil avec des centaines de petits trucs là dans l'oreille. Il y en a un de ces centaines qui ne marche pas, on le remplace. Oui, c'est mécanique.
Oui, parce que physiologiquement, il est capable de parler. C'est-à-dire qu'il a une langue, il a un larynx, il a tout ça. Mais comme il n'entend pas les sons, il ne peut pas les reproduire. D'ailleurs, on dit pas, on est toujours un sourd muet, on ne dit pas un muet sourd. S'il est sourd, c'est que forcément il est muet, il ne peut pas reproduire quelque chose.
Mais la Gemara dit pas quoi. Mais seulement la Gemara
voilà.
Dit pas.
Non, mais je sais bien, oui, oui.
Ah, d'après ce que j'ai trouvé, un sourd de naissance ne peut pas parler. Il va juste annuler.
Oui, c'est ce que je dis, oui. Ah,
okay. Quel garant il a décidé ça? C'est Wikipédia ou c'est officiellement?
Oui. Non, Google. C'est...
Doctissimo. Qui?
Doctissimo, c'est un site pas mal.
Vous savez que maintenant, il y a des gens maintenant qui sont sans tympan, qui sont nés. Moi, mon fils, il fait de l'osoprothèse. Il m'a dit qu'il a traité un cas. Il y avait une jeune fille qui était de naissance sourde. C'est ce qu'il m'a dit. Après, il n'est pas là, dommage, je l'aurais demandé. Mais ils ont traité une fille sourde. Donc, elle n'a pas de tympan. Ils lui ont mis au niveau de la cochlée un appareil qui fait vibrer. Et ils ont réappris au cerveau à entendre et elle parle maintenant. Maintenant, s'il ne lui avait pas réappris ça, elle ne parlerait pas, j'imagine.
Oui. Est-ce que celui-là, il est chayav mitzvot? Est-ce que ce cas-là, il est chayav mitzvot?
C'est venu après, oui.
Si on fait une opération, un sourd pour qu'il peut entendre, est-ce que maintenant, il est chayav mitzvot?
Mais d'après ce qui est marqué dans la Gemara, on déduit dès là b'nei da'at. Il n'a pas le da'at. Donc, de toute façon, c'est si là où il n'a pas le da'at, ce n'est pas des klalim qu'ils ont fait les chamim. C'est a priori, il y a une conclusion, il y a une réflexion dans la Gemara. Il arrive à déduire que s'il a b'nei da'at, alors oui, il rentre dans ce cas. Mais sinon, il ne rentre pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un klal.
J'entends qu'est-ce que tu dis. Mais ici, il faut ajouter quelque chose de formidable. C'est très important. L'enfant de 12 ans, si je vois un enfant de 12 ans, si je vois un enfant de 12 ans qui est très intelligent, il est quand même pas tour de mitzvot. Parce que c'est la Torah, elle a dit une définition claire. Tu n'as pas 13 ans, tu n'as pas tour, point. On ne veut pas rentrer dans les trucs. Alors, si on a un sourd-muet qui a les signes, il est sourd-muet, même s'il est très intelligent, les Chora, la Torah ne veut pas, la Torah ne rentre pas dedans. Parce que sinon, on devient fou de se casser la tête. Quel genre d'enfant il est gadol. On devient fou, quel sourd-muet intelligent. La Torah dit, sourd-muet, on n'est pas tour. Point la ligne.
La Gemara dit qu'il n'est pas tour parce qu'il est lavardat. Donc, par conséquent, si vraiment on lui a fait une opération, etc., qu'il arrive à montrer qu'il est bardat, il devrait être
hayat. Mais l'enfant, je parle d'un enfant, si la Gemara nous dit parce qu'il est par bardat. Et Ava Piken, si je vois un enfant de 12 ans qui a l'intelligence de 14 ans, quand même, il n'est pas tour. Même
si pour l'enfant, je vois... c'est spécial. Pour, voilà. Pour la bar mitzvah, c'est spécial. Non.
Alors, du moment que je vois que la katane, c'est spécial, pourquoi dire que le cheresh, c'est le même? Seulement quoi? Si on fait une opération jusqu'il entend, Bemet, il est chayav, parce qu'il n'est Bemet plus cheresh. Il n'est pas marqué dans la Gemara qu'un homme qui manque le, je pense, ça s'appelle dans l'oreille, on appelle ça le comment il s'appelle, le petit oslier dans l'oreille, là, comment il s'appelle, enclume.
L'enclume et le marteau.
Imaginons-nous, un homme n'a pas d'enclume et le marteau dans l'oreille et on lui fait mécaniquement. Et maintenant, il entend. Il est chayav mitzvot. Parce qu'il n'est pas marqué dans la Gemara, ceux qui n'ont pas d'enclume et de marteau, il n'est pas tour mina mitzvot. Il est marqué dans la Gemara, ceux qui est cheresh, ceux qui est sourd-muet. Donc, si je lui fabrique artificiellement un enclume, un marteau, et il entend, il n'est pas cheresh. Donc, il n'est pas chéré, je vais mettre le chéré à mitzvot. Son cerveau se développe d'un côté, et de l'autre côté, il entend. Qu'est-ce qu'il est grave qu'il n'a pas d'enclume? Mais il entend. Ceux qui entendent, il entend, ça y est, il est normal.
Et celui, donc, qui est sourd, et celui qui est sourd que d'une oreille, il est chayav ou il n'est pas tour?
Qu'est-ce que tu penses, toi?
Moi, je pense c'est que. Comme le bord. Et comme le souma, il est marloquette.
Sur le souma, il y a marloquette, c'est le chayav à mitzvot.
Non, là, tout à l'heure, on a dit que le borgne.
Je te pose un kochia. La machloket, elle est sur toutes les mitzvot ou sur Aliyat HaRegel?
Non, sur Aliyat HaRegel, sur notre sujet.
Voilà, Aliyat HaRegel, mais je parle de toutes les mitzvot.
Ah, d'accord.
Toutes les mitzvot, un borgne, il est chayav mitzvot. Oui, donc, oui. Il est sourd sur une oreille. Vada, il est chayav mitzvot. Vada, il est chayav mitzvot.
Alors pourquoi l'aveugle, lui, il est chayeb des mitzvot, il a moins d'intelligence?
Alors l'aveugle, il y a machloket Rabbi Yehuda Chachamim, s'il est chayeb des mitzvot.
Ah.
Il y a un tane qui dit qu'un aveugle, il n'est pas tour des mitzvot. Nous, là, l'alacha, on dit que l'aveugle, il est chayeb des mitzvot.
Ça change quoi qu'il soit aveugle et sourd? Il y a tout le temps le sourd.
Pourquoi? Pourquoi le sourd, il n'est pas tour des mitzvot et pourquoi l'aveugle, il est chayeb?
Ouais.
Quand il dirait que l'aveugle, il a plus d'intelligence que le sourd muet.
Dans les lois des dommages, on dit que celui qui abîme un organe, il doit dédommager. Et si c'est l'oreille, de mes coulots. Donc oui. L'oreille, c'est quand même quelque chose d'important.
Oui, non, mais là-bas, on parle parce que personne ne veut l'embaucher. Le din de mes coulots, c'est le nézek parce que personne ne veut embaucher un sourd. Parce qu'il n'entend pas qu'est-ce qu'on lui dit.
Il n'y a pas eu des cas de rabbanim qui ont été... On a entendu des cas de Rav qui étaient non-voyants. Ils ont pu être Rav non-voyants. Et ils n'étaient pas tourim de toutes les mitzvot aussi.
Rav Shechet.
Oui.
Rav Yosef. Rav Shechet et Rav Yosef, ils étaient aveugles. Ouais. Il y a un machloket, s'ils sont chayav mitzvot et pas tour.
Rav Yosef, il avait perdu la mémoire, mais il n'était pas aveugle, Rav Yosef.
Qui vous a dit?
On ne voit pas qui dit qu'il ne voyait pas. Simplement, il avait des doutes.
Pourquoi on ne voit pas? C'est marqué dans la Marab Yosef, il était aveugle.
Où c'est Marab à quel Sahim. Endroit?
Marab Sahim.
Ok.
On a fait ça. Marab Yosef, il a dit, j'aurais bien voulu que la halakha, il est comme Rabbi Yehuda, que l'aveugle, il n'est pas tour de mitzvot. Et moi, je fais comme les mitzvot, comme ça, j'ai plus de sachar. Après, Rabbi Yosef, il a dit non. J'aurais bien voulu que l'alakha, il est pas comme les chachamim, que je suis chayav mitzvot, comme ça j'aurais plus de récompenses. Parce que quand on a chayav mitzvot, on a plus de récompenses. Non, on va après dans la Gemara qu'il y avait deux sourds muets qui après ils sont guéris. Les talmidim de Rabbi. Bon, on verra encore. Bon, mais c'est là. Alors, colle tout.
Dites-moi, ouais. Rav Brandt, oui, la semaine dernière, on avait parlé de la smicha. Mais la smicha, elle se passe au Beit HaMikdash uniquement. Elle ne se passe pas en dehors.
La smicha de Corban ou la smicha de Rabbanim?
De Corban.
Oui, c'est pas au Beth Amikdash, évidemment.
Donc,
oui.
Pourquoi on a peur qu'il monte sur la vache, qu'il aille casser une branche? Ça se passe dans le Beth Amikdash, il n'y a pas tout ça là-bas. Si c'était à l'extérieur, je comprends.
Et si quelqu'un il est sur une île où il n'y a pas d'arbre, est-ce qu'il a le droit de chevaucher sur une vache?
Non, il n'a pas le droit.
Pourquoi pas? Il n'y a pas d'arbre.
Oui, mais quand les Haramim y donnent, c'est pour le cas général, c'est pas pour un cas particulier.
Mazal Tov, ça c'est la réponse à votre question. Il y a un grésillement ici de quelqu'un, il n'a pas fermé. Eh bien, c'est quand est-ce qu'on a le droit de s'appuyer sur un chat, la main?
Moi, je n'ai pas de chat, alors ça va.
Non, mais est-ce qu'on a le droit de s'appuyer sur un chat? Et mishtamshim bebalechaim, on n'a pas le droit de s'appuyer. Est-ce qu'on peut chevaucher sur un chat?
C'est pas l'habitude. Oui. Oui, parce qu'on ne chevauche pas sur un chat.
On ne peut pas chevaucher. Et quand même, on n'a pas le droit de s'appuyer. Parce que
de s'appuyer ou de soulever? De s'appuyer ou de soulever le chat? Balhaim.
Soulever, c'est une autre chose. Soulever, c'est Mishum Mouktse. C'est une autre chose. Il y a un dîme de appuyer, on n'a pas le droit de Mishum Mishta, mais je vais Balhaï. On n'a pas le droit de soulever Mishum Mouktse. Ça, c'est un autre dîme. Moi, je ne parle pas de Mouktse de soulever, je parle appuyer. Appuyer, c'est assur Mishum Mishtamesh Bebal Chai. Et Mishtamesh Bebal Chai, c'est assur que Zaira de peur qu'il va arracher une branche. Et c'est même sur un animal qu'on ne peut pas chevaucher dessus. C'est un Zaira Klalit. Mais elle est sa réponse à Dr. Waknin, qu'au Beth Amikdash, on ne peut pas chevaucher. Mais on ne parle pas que dans ce cas-là, tu peux chevaucher. C'est un Zaira Klalit, point la ligne. Est-ce qu'on a le droit de s'appuyer sur un arbre?
Oui.
Le lundi ou Shabbat?
On n'a pas le droit
de s'appuyer sur un arbre Shabbat.
On n'a pas le droit de peur de
monter. De peur qu'on aille cueillir un fruit.
Voilà. Et quel est le dîn d'un arbre qui n'a pas de fruit?
C'est pareil.
Otodavar. Et mishtamshim bemechubar. Et mishtamshim alachai. Alors, kol tu chodesh tov.